sur les routes du Grand Nord. Balado, Radio-Canada International, rcinet.ca.
Le Nunavut, c'est beaucoup d'îles dans l'océan Arctique. Territoire du Nord-Ouest, beaucoup de forêts, plats, à part les monts Mackenzie, des grands lacs, des grandes forêts boréales. Et quand on va plus à l'ouest, le Yukon devient un peu plus escarpé avec des grands massifs. Donc, on peut croire que tout se ressemble, mais chacun séparément, on voit des belles différences.
Se rend du côté du Yukon, donc là on est vraiment à l'extrême nord-ouest du Canada, on longe l'Alaska, on est à côté des Américains. C'est un territoire là aussi immense avec une petite population, il y a à peu près 36 000 personnes qui vivent là. Et le Yukon, ça nous fait penser à Whitehorse, ça nous fait penser à la ruée vers l'or.
Le Klondike dans les années 1896. Pour revivre cette époque de la ruée vers l'or, une chose qui est incroyable à faire, c'est la randonnée de la Chilkoot Trail, donc qui est l'ancien sentier emprunté par les chercheurs d'or à l'époque. J'ai eu l'occasion de le faire en entier, c'est une soixantaine de kilomètres. Ça part de Skagway en Alaska, sur le bord de l'eau. On grimpe dans les montagnes, on traverse la frontière américaine et canadienne. Et ensuite, on arrive dans des paysages surréels, vraiment incroyables, une nature préservée. Et on termine donc à peu près, il faut compter 4-5 jours à peu près, ça dépend de notre forme. Et on arrive ensuite à Bennett, donc du côté canadien. Et donc, il y a un train qui nous attend pour nous ramener près de l'Alaska.
Ça se faisait à pied, c'est de la randonnée pédestre.
Oui, c'est de la randonnée, oui, wow. Oui. C'est un sentier de longue randonnée sur 5 jours à peu près. Et les gens qui n'auraient pas la forme pour le faire peuvent le faire en train. Il y a le train de White Pass créé à la suite de la ruée vers l'or. Donc c'est vraiment une formidable croisière ferroviaire qui passe dans des endroits incroyables le long de lac où il n'y a absolument personne. Il y a plusieurs activités comme ça à faire au Yukon pour revivre un petit peu cette époque de la rue vers l'or. Sans parler de Dawson City où on peut nous-mêmes chercher de l'or avec les bâtés, fouiller le sable. On en trouve encore un petit peu pour l'avoir fait. J'ai réussi quand même à trouver 18 dollars d'or. C'est pas la richesse, mais quand même impressionnant.
Oui, en effet.
Avec ses hôtels, ses saloons, les boutiques rénovées. C'est vraiment une ville figée dans le temps à cette époque. Avec les enfants, c'est incroyable. Un voyage dans le temps, vraiment.
Véhicule récréatif, c'est peut-être le meilleur moyen de se promener quand on monte aussi haut. On peut avoir la liberté de se déplacer comme on veut, là.
Pour pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen. On peut partir de Whitehorse. Il y a beaucoup de locations là-bas de véhicules. On prend la Klondike Highway, donc qui relie Whitehorse à Dawson City. Et puis, si on est courageux, on peut aussi prendre la Dempster Highway ensuite. Donc, c'est l'autoroute qui part de Dawson City jusqu'au territoire du Nord-Ouest, donc l'Arctique jusqu'à Inuvik. Ça passe par le parc provincial de Tombstone, qui est magnifique, des paysages comme on en voit rarement dans sa vie.
Des territoires, c'est Yellowknife. C'est une ville que vous avez visitée?
C'est une grande ville quand même. On ne s'attend pas à voir des petits immeubles en plein dans la ville, en plein milieu. Quand même du monde. Il y a des restaurants, oui. de grandes chaînes américaines même. Mais ce qui est vraiment très intéressant à Yellowknife, c'est le quartier de maisons flottantes. C'est dans la baie de Yellowknife, donc accessible en, je dirais, 5 minutes en auto ou 10 minutes à pied. On arrive dans une magnifique baie d'où partent les hydravions. Et là, une quinzaine de maisons flottantes sont installées à l'année. Donc en été, les résidents se promènent en canot, l'hiver en motoneige ou même en véhicule motorisé. De véritables maisons avec plusieurs étages, des balcons, des terrasses. Et j'ai eu la chance de dormir dans une de ces maisons. Il y a un seul gîte, un B&B, qui permet de dormir une ou plusieurs nuits. Et donc, on a notre propre maison, un petit loft. Donc, on y va en canot, on prend son déjeuner sur la terrasse. Et puis, on est bercé la nuit par le léger remous des bateaux qui passent à proximité. C'est vraiment une expérience unique, une des plus belles que j'ai pu faire dans ce territoire.
Alors, quand on est à Yellowknife, on est sur au bord du Grand Lac des Esclaves.
Il est très, très, très grand. Il est vraiment immense. C'est, il me semble, le troisième plus grand lac au Canada. Mais on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est un lac avec plein de petites baies, des anses, des criques, beaucoup de forêts partout. Donc, quand on prend l'hydravion ou l'avion même pour aller dans les différentes régions des territoires, on se rend pas compte de son immensité. Mais quand on regarde sur la carte, c'est vraiment incroyable.
C'est une mer intérieure.
Ah oui, véritablement, avec sa vie, la vie en bateau, les hydravions qu'on entend du matin au soir, des pêcheurs, des gens qui vont tout simplement travailler. C'est assez fascinant de voir cette vie qui s'articule autour de cet immense lac.
Aussi, dans les territoires du Nord-Ouest, il ne faut pas oublier le fleuve Mackenzie, qui est le plus grand, le plus long au Canada.
Le fleuve Mackenzie qui traverse les monts Mackenzie, qui sont certainement les montagnes les plus incroyables que j'ai vues au Canada. On parle toujours des rocheuses, mais les monts Mackenzie, bon, les montagnes sont isolées et assez inaccessibles. Mais j'ai eu la chance de faire un tour d'avion pour voir un minuscule bout de cette immensité de sommet avec des caribous, des bœufs musqués qui sont en immense troupeau. C'est vraiment superbe et dans cette région qui s'appelle la région du Satou, c'est là qu'il y a les plus belles rivières canotables au monde. Il y a la Kill River, la Mountain River. Il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent là juste pour faire des descentes en canot qui durent 15 jours, 3 semaines, 1 mois même, qui traversent ces massifs incroyables. Et certaines rivières descendent jusqu'à l'océan Arctique. Donc c'est une aventure incroyable. C'est vraiment de renommée internationale. Incroyable. incroyable. Donc imaginez-vous faire du canot toute la journée, le soir planter la tente et puis passer votre nuit à regarder les aurores boréales.
Ah, formidable, incroyable. Et en plus, il y a le soleil de minuit fin juin, donc fin août encore, les journées sont très très longues.
Les journées sont longues, le soleil se couche vers 11h, donc il faut tenir à peu près jusqu'à... À peu près, les aurores boréales se dévoile vers minuit et demi, une heure et demie à peu près. Et puis le jour réapparaît vers 4 heures du matin à peu près. Donc c'est court, mais elles sont toujours présentes au-dessus du ciel, dans le ciel des territoires du Nord-Ouest. Donc si on n'a pas trop envie de dormir, ça vaut vraiment le coup de rester éveillé.
Balado, Radio-Canada International, rcinet.ca.